Bonjour mesdames et messieurs, je suis Moussa Boubnan avec ma classe de 3e du collège Louis Armand. Nous sommes sur un projet Web Radio depuis le début de l'année. Ce projet consiste à réaliser un magazine que nous vous proposons aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, la chronique Société sur la violence chez les jeunes, la chronique Micro-trottoir sur les préjugés, la chronique Environnement sur l'abattage des animaux, la chronique Santé sur l'addiction aux jeux vidéo, la chronique Vie du collège sur la réforme du collège, la chronique Zoom sur les emplois du temps, la chronique Mode et dans la chronique Loisirs sur les salles de sport. En premier, nous allons être avec Dylan, Nicolas et Yacine pour la chronique Société sur la violence chez les jeunes.
Aujourd'hui, nous trouvons que les jeunes sont plus violents et nous avons cherché à savoir si c'est vrai et pourquoi. Et comment lutter contre cette violence? D'abord, qu'est-ce que c'est que la violence? C'est l'utilisation de la force physique ou psychologique pour contraindre une autre personne. Il existe plusieurs sortes de violences. La violence verbale comme les insultes, les menaces, la violence physique comme les coups, les viols, la violence psychologique comme les humiliations, le harcèlement, la violence matérielle comme les privations de nourriture. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2000, 43% des homicides ont été commis par des jeunes et 199 000 jeunes ont été tués dans le monde, ce qui équivaut à la mort chaque jour de 565 jeunes de 10 à 29 ans pour cause de violence. Les taux d'homicide chez les jeunes varient beaucoup d'une région ou d'un pays à l'autre. La violence est beaucoup moins élevée chez les filles que chez les garçons. Cette hausse de l'activité violente chez les jeunes est due à plusieurs facteurs.
En premier, il y a des causes environnementales, comme la famille, le milieu social et la situation économique du pays ou la politique. Les problèmes économiques expliquent en grande partie de la violence chez les jeunes. Dans un quartier avec beaucoup de crimes et de délinquance, un jeune a de très fortes chances d'être impliqué dans une bande ou un cercle de personnes violentes. De plus, il est facilement exposé à la drogue ou l'alcool. Ceci touche principalement les familles en position économique difficile, qui ont plus de mal à éduquer leurs enfants à cause de cet environnement précaire et menaçant.
En second, il y a des problèmes psychologiques. Par exemple, si un enfant est battu à la maison ou maltraité en général, ceci peut engendrer de la violence verbale ou physique à l'école, et souvent contre les plus faibles. Ou encore une personne malade psychologiquement, par exemple, qui souffre de schizophrénie, a une plus haute chance de commettre des actes violents selon une étude menée par l'université de Oxford. Mais les conséquences de cette violence ne sont pas négligeables. Selon l'OMS, le taux de mortalité chez les jeunes augmente et l'homicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes âgés de 10 à 29 ans. Pour chaque jeune tué, beaucoup d'autres subissent des blessures nécessitant une hospitalisation. Ceci pourrait entraîner un climat de peur, ce qui à son tour pourrait entraîner plus de violence et donc plus d'agressivité chez les jeunes.
Il faut donc faire comprendre aux jeunes que la violence n'est pas une solution. Lorsqu'on se sent inférieur, mal dans sa peau ou encore révolté, il est tentant de reporter ce qu'on éprouve sur les autres. Souvent dans ces situations, on s'en prend aux plus faibles qui n'osent peut-être pas résister. La forme de cette violence peut prendre divers aspects tels que l'intimidation ou le choix d'un bouc émissaire sur lequel on va concentrer son agressivité.
Ainsi, pour tenter de réduire cette violence, il faut mettre en place des programmes pour soutenir les parents de leur rôle, mais aussi des programmes à l'école pour aider les jeunes à contrôler leur colère et leur expliquer comment régler un conflit sans utilisation de la violence.
Merci beaucoup les garçons, grâce à vous, on sait un peu plus sur la violence chez les jeunes. Et maintenant, nous allons retrouver Aimé et Wissal pour la chronique Micro-trottoir sur les préjugés.
Bonjour à tous et bonjour Moussa.
Bonjour. Bonjour.
Alors, en effet, oui, nous travaillons sur la chronique micro-trottoir.
Notre sujet est les préjugés.
Donc, dans la société, elle est pleine de préjugés. On a tous déjà entendu en famille, entre amis, à la télé ou à la radio, des opinions qui nous choquent et parfois on en a même été victime.
Mais qu'est-ce qu'un préjugé ? C'est porter un jugement sur quelqu'un ou quelque chose sans le connaître. Qui n'a jamais entendu « les blondes sont stupides » ou « les filles sont nulles en maths » ? Nous avons voulu savoir quelles sont les origines des préjugés, leurs conséquences et comment on peut les combattre.
D'abord, l'origine des préjugés est socioculturelle. Ils se construisent autour de trois influences majeures. Premièrement, l'éducation qui nous donne des attitudes et des comportements.
Deuxièmement, les médias qui sont saturés de préjugés. On trouve des préjugés dans les publicités, dans les films.
Et troisièmement, il y a l'influence du groupe auquel on appartient. Groupe de copains à l'école, club sportif, association.
De plus, on peut voir que les préjugés naissent chez les personnes qui ont peur de l'inconnu ou de la différence. Par exemple, avoir peur d'une couleur de peau différente.
Ensuite, les préjugés peuvent blesser et peuvent avoir des conséquences inimaginables sur la conscience, comme la dépression, le suicide, la drogue ou l'alcool.
Mais ils peuvent aussi créer de la discrimination, du sexisme, et c'est puni par la loi.
Enfin, pour combattre les préjugés, il faut apprendre à connaître les autres et ne pas se contenter de ce qu'on entend, car en communiquant, on apprend à se respecter et à se faire notre propre opinion.
Et puis, il faut parler des préjugés avec nos proches et avec les personnes qui en sont victimes pour régler les problèmes.
Nous sommes allés dans la rue pour poser des questions sur les préjugés à certaines personnes.
Pour vous, qu'est-ce qu'un préjugé ?
On juge quelqu'un juste par rapport à son physique, on va penser quelque chose sur lui alors qu'on ne connaît pas.
C'est juger les gens par rapport à une couleur.
Qu'est-ce qu'un préjugé ? Ce sont des idées tout faites. C'est surtout des conduire à tout.
Vous êtes d'accord avec les préjugés sur les femmes qu'elles ne savent pas conduire ?
Pas vraiment. C'est des idées toutes faites, ouais. C'est des clichés en fait, hein, les préjugés. Donc il vaut mieux juger par soi-même. Chacun devrait penser par lui-même et non pas effectivement se contenter de phrases toutes faites, de réflexions toutes faites. Il vaut mieux se faire ses propres idées que celles des autres.
Oui.
Un préjugé, c'est avoir une idée préconçue par rapport à une personne ou une société ou une situation.
Est-ce que vous avez des exemples de préjugés ?
Ne pas répondre aux questions des jeunes, par exemple, c'est un préjugé.
Par exemple, si quelqu'un croise quelqu'un qui est arabe, c'est-à-dire que c'est un voleur, pour moi, c'est ça, le préjugé. Voilà.
Le préjugé que Hitler avait par rapport aux juifs. Je suis chrétien, croyant, pratiquant. Pour moi, Dieu est le même pour tous. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit les orthodoxes, naissons tous égaux.
Oui. Voilà.
Et ça, j'en suis persuadé.
Et vous avez des solutions pour savoir comment les combattre ?
Des solutions. C'est pas évident, parce que le préjugé, c'est rentré dans les habitudes des gens.
Je dirais qu'il n'y a pas trop de solutions, parce que ça dépend comment les gens vivent. C'est malheureusement, il y en a qui sont bornés et qui continuent à penser. Qui continuent à avoir beaucoup de préjugés. Donc, je pense qu'il faudrait faire, je sais pas, peut-être des pubs, des campagnes, mais ça ne changerait pas forcément la façon de penser.
Alors là, c'est un... Ça peut être une discussion philosophique. Il faudrait que les gens arrêtent d'être cons. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Hein ? Ouais. Bah, vous m'en posez des questions à 8h30 du matin.
Pour conclure, on a travaillé sur les préjugés pour vous montrer le vrai du faux. Avant de porter un jugement, il faut se renseigner et ne pas colporter des choses. Et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, comme me faire mon propre opinion à propos des préjugés sur plusieurs personnes, comme sur la nationalité ou plein d'autres choses, comme les origines.
Merci les filles, maintenant, grâce à vous, je vais faire attention à ce que je dis aux autres. Tout de suite, nous allons être accompagnés de Kenza, Marine et Sokaina qui vous proposent de parler sur la chronique environnement sur l'abattage des animaux.
Bonjour, et oui Moussa, aujourd'hui dans la chronique environnement, nous avons choisi de vous parler de l'abattage des animaux. Nous nous posons une question importante, est-ce que les animaux souffrent toujours pendant l'abattage ? Tout d'abord, d'après la loi de 1976, article L214 du Code rural, on reconnaît que les animaux sont sensibles. Cet article détermine des mesures afin d'éviter des souffrances aux animaux, lors des manipulations et lors des diverses techniques d'élevage, de parquage, de transport et d'abattage des animaux. Les établissements s'occupant de l'abattage des animaux sont soumis à des contrôles et l'administration peut prescrire des mesures allant jusqu'à la fermeture de l'établissement car il est interdit de maltraiter des animaux.
Ensuite, depuis 1964, l'étourdissement des animaux est obligatoire en France afin d'éviter la souffrance lors de l'abattage. Une dérogation permet toutefois d'abattre les animaux en pleine conscience sans insensibilisation dans le cadre strict de l'abattage rituel. La souffrance débute avec le transport des animaux vers l'abattoir et se poursuit durant les longues heures d'attente qui précèdent leur exécution. Par exemple, il faut savoir que certains abattoirs utilisent de manière intensive l'aiguillon électrique sur l'arrière des bovins pour les faire avancer afin de respecter des cadences élevées d'abattage.
Ainsi, on peut donc conclure qu'il y a plusieurs règles au niveau de l'abattage, mais sont-elles vraiment respectées ? D'après la loi, nous devons assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements. Ils doivent subir une inspection ante-mortem, c'est-à-dire avant de mourir. Ils doivent aussi répondre à des normes d'hygiène et enfin, ils doivent être étourdis afin d'atténuer les souffrances. car nous devons éviter de les faire souffrir. Mais récemment, il y a eu le scandale provoqué par les vidéos montrant la façon dont les animaux sont traités dans l'abattoir d'Alès. La vidéo est choquante, car on y voit bien que les règles ne sont pas appliquées. Les animaux sont maltraités, ils se font frapper par des bâtons, des coups de poing. Les animaux sont censés être étourdis, mais ils montrent des signes de reprise de conscience, alors que les règles précisent qu'ils doivent rester étourdis jusqu'à leur mort. Les conditions d'hygiène doivent être rigoureusement respectées afin d'éviter toute maladie ou contamination. D'après la loi, les animaux d'abattoir doivent subir un contrôle médical préalable afin de s'assurer que les animaux sont en bonne santé et qu'il n'y ait aucun risque de contamination.
Dans l'abattoir d'Alès, les conditions sanitaires ne sont pas appliquées. On constate la contamination par des matières fécales, le manque de surveillance des bovins, le personnel est sans blouse.
Pour moi, la façon dont cet abattoir traite les animaux est ignoble, car ces derniers ne méritent pas de mourir dans d'atroces souffrances. Moi, un des auteurs de ce texte, je ne verrai plus les viandes que nous mangeons du même œil.
Je suis contente qu'il y ait une loi pour protéger les animaux au moment de leur mort, car ce sont des êtres sensibles comme nous.
Je suis d'accord avec Kenza et Marine, car lorsque j'ai lu le texte, j'ai été choquée par toute l'atrocité de l'abattoir d'Alès. Et je trouve que les animaux ne devraient pas souffrir autant dans tous les abattoirs. L'abattoir d'Alès devrait respecter toutes les mesures qui sont obligatoires.
Merci les filles. Maintenant, je pense que votre thème est très important, car comme ça, nous savons comment les animaux sont abattus. Ensuite, nous allons accueillir Brandon, Florent et Alexis, qui vont aborder la chronique santé sur l'addiction aux jeux vidéo.
Chaque année, une nouvelle console et des jeux vidéo apparaissent dans le commerce. Les plus célèbres sont Call of Duty, GTA, Minecraft, etc. La passion pour les jeux vidéo a donc augmenté. Par exemple, en France, selon une étude du Syndicat national des jeux vidéo publiée en 2012, en 5 ans, le nombre de joueurs français passait de 17 à 28 millions de personnes, ce qui représente plus de 55% des Français. Il est difficile d'établir un profil type d'un joueur car ils sont tous différents. Mais ce n'est pas que les enfants qui jouent aux jeux vidéo, loin de là. Il y a des hommes, des femmes et différentes catégories d'âge. Et il faut savoir que 73% des joueurs ont plus de 18 ans. Dans notre cas, nous sommes intéressés à l'addiction aux jeux vidéo. Car pour 8,5% des adolescents, cela représente une drogue, une dépendance. C'est-à-dire que jouer devient un besoin obsessionnel. Dans un premier temps, on va parler des jeux vidéo en général, du profil des joueurs et de l'addiction. Dans un second temps, nous allons parler des symptômes et des conséquences. Dans un dernier temps, nous finirons avec les solutions.
Pour commencer, les jeux vidéo sont des jeux qui se présentent sur des écrans et différentes plateformes comme les consoles, les ordinateurs, les téléphones, etc. Parlons des jeux vidéo en général. Il y en a de toutes sortes sur différents thèmes comme les sports, les jeux de guerre, les jeux d'aventure et autres. Les plus connus sont par exemple FIFA, GTA, Call of Duty, Candy Crush, Mario. Avant, en allumant l'ordinateur, on jouait à des jeux de genre les démineurs, le solitaire, mais maintenant, on a plus de jeux du style MMORPG. Autrement dit, ce sont des jeux de rôle en multijoueur. Ces nouveaux jeux ont beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Plus de 8 jeunes sur 10 déclarent jouer au moins une fois par semaine et certains y jouent plus de 4 ou 5 heures par jour. On peut donc dire que ces personnes sont addictes, c'est-à-dire ont une forte dépendance à une activité. D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFDT, qui a réalisé une enquête en 2014 auprès de 2000 élèves inscrits de la 4e à la 1ère, dans 15 établissements d'Île-de-France, un élève sur 8 aurait un mauvais usage de jeux vidéo. Les garçons seraient les plus touchés car ils sont davantage attirés par les jeux pour adultes. Dès le collège, plus de 8 garçons sur 10 ont déjà joué à un jeu déconseillé aux mineurs, comme Grand Theft Auto, Call of Duty ou Assassin's Creed. Et ils sont encore plus nombreux au lycée, près de 90%.
Mais des symptômes peuvent alerter et montrer si on est accro aux jeux vidéo, comme passer beaucoup de temps sur l'ordinateur ou la console, et avoir du mal à s'arrêter, s'enfermer dans sa chambre et négliger sa famille ou ses amis pour les jeux vidéo, avoir des problèmes à l'école, etc. Il y a aussi des symptômes physiques, comme les yeux desséchés, des migraines régulières, des douleurs dorsales et cervicales, une alimentation irrégulière, sauter des repas, ne pas avoir d'hygiène correcte, des troubles du sommeil. Maintenant, si vous êtes dans cette addiction aux jeux vidéo, il y aura des conséquences plus ou moins graves et donc un impact sur votre relation sociale, familiale, mais surtout des répercussions sur le travail scolaire ou professionnel. Comme toute bonne chose, pour ne pas tomber dans l'addiction, il suffit juste de jouer modérément. car il y a aussi de nombreux effets positifs à jouer aux jeux vidéo. D'abord, cela permet de passer le temps et de s'amuser en passant un bon moment seul ou à plusieurs en sécurité chez soi. Puis, les jeux vidéo permettent de se détendre ou de déstresser car on oublie ses problèmes, on se change les idées en rentrant dans la peau d'un personnage, dans un monde imaginaire et enfin, on y développe des compétences comme l'attention, des réflexes de rapidité ou des stratégies.
En conclusion, nous les jeunes, nous aimons jouer aux jeux vidéo, mais il faut faire attention à ne pas en abuser, en essayant de limiter le temps de jeu, en prenant le temps de sortir avec ses copains et de passer du temps avec sa famille.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Personnellement, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais comme toutes les bonnes choses, il n'en faut pas en abuser.
Moi, en moyenne, je joue 1 à 2 heures par jour, mais je fais attention à ne pas me coucher trop tard.
Moi, par exemple, je passe en moyenne 2 heures par jour, mais cela dépend si j'ai cours ou si c'est les vacances.
Je conclue que votre chronique est très utile et maintenant nous allons faire plus attention au temps de jeu. Tout de suite, nous allons être accompagnés de Corentin et Valentin qui vont aborder la chronique Vie du collège sur la réforme du collège.
En ce moment, on parle d'une réforme du collège qui va être mise en place par Naja Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale pour la rentrée 2016.
Une réforme, c'est un changement visant à améliorer le système scolaire. Dans notre cas, c'est au collège qu'un ensemble de mesures va bientôt être mis en place.
Mais est-ce que cette réforme du collège va vraiment améliorer la réussite des élèves ?
En premier, nous allons parler du but de cette réforme. En second, nous allons vous expliquer ce qui va changer avec cette réforme. Et pour finir, on présentera les conséquences de la réforme à nos yeux.
Tout d'abord, pourquoi cette réforme ? Selon la ministre, le collège représente le maillon faible de l'enseignement. En effet, de nombreux collégiens ne maîtrisent pas assez les savoirs fondamentaux, comme le français ou les maths, et chaque année, plus de 140 000 élèves sortent du système éducatif sans aucune qualification. Elle veut donc améliorer le système scolaire. De plus, le collège suscite l'ennui et aggrave la difficulté scolaire. Par exemple, en primaire, quand les élèves ne comprennent pas, 70% des élèves demandent des explications, alors qu'au collège, seulement un élève sur trois demande de l'aide.
Puis, quelles sont les mesures prises dans cette réforme ? Le plus gros changement de cette réforme sera la mise en place des EPI, les enseignements pratiques et interdisciplinaires. C'est-à-dire que les élèves travailleront par projet avec des professeurs de plusieurs matières. En sixième, les élèves n'auront pas plus de 6 heures de cours par jour et une pause de 1h30 pour tout le monde. Il y aura LV2, langue vivante 2, dès la cinquième. Le latin et le grec vont théoriquement disparaître. Il y aura aussi un changement dans le DNB, c'est le diplôme national du brevet.
En conséquence, pour cette rentrée scolaire 2016, il y aura beaucoup moins d'heures, une suppression théorique du latin et du grec, et les classes européennes sont définitivement supprimées.
En tant qu'élève de 3e, nous pensons que cette réforme est intéressante sur certains points. Par exemple, d'un côté, les EPI paraissent intéressants, car c'est une manière de travailler qui semble plus motivante, plus originale que travailler devant une feuille avec un stylo. En plus, théoriquement, il y aura moins d'heures de cours, et c'est vrai que les emplois du temps de 3e sont trop chargés.
Mais de l'autre côté, nous faisons du latin et nous faisons partie de la classe européenne. Ce sont des matières qui nous plaisent et qui nous permettent d'apprendre plus de choses. On trouve vraiment dommage que ça disparaisse.
Et vous, quelle est votre opinion ?
Au final, une réforme c'est bien, mais on tient au latin.
La réforme c'est bien, mais les classes européennes nous aident à mieux apprendre et on ne veut pas que ça disparaisse.
La réforme du collège est très importante car nous, en tant qu'élèves, nous devons apprendre beaucoup de choses. Ensuite, nous allons accueillir Marine et Najwa sur la chronique Zoom sur les emplois du temps du collège.
Bonjour. Un emploi du temps est un moyen pratique qui permet de répartir des tâches à effectuer, en particulier pour les heures de cours. Nous nous sommes ainsi posé une question. Comment sont faits les emplois du temps dans les établissements scolaires ? Nous pensions avant de faire cette expérience que tous les professeurs se réunissaient afin d'organiser des emplois du temps tous ensemble. Après cela, nous avons donc décidé de poser plusieurs questions à la principale adjointe, à des professeurs, à un élève de 3e et à un élève de 6e. Madame Darmon, adjointe principale du Collège Louis Armand, a accepté de répondre à quelques questions.
Bonjour Madame Darmon.
Bonjour mademoiselle.
Qui construit les emplois du temps ?
Donc dans tous les établissements scolaires, c'est toujours le principal adjoint ou le proviseur adjoint qui construit les emplois du temps.
Avez-vous une aide extérieure ou supplémentaire pour vous aider à faire les emplois du temps ?
Oui, on dispose d'un logiciel qui s'appelle EDT, qui est très utile pour faire les emplois du temps.
Les professeurs ont-ils un rôle dans le choix des emplois du temps ?
Je demande en fin d'année aux professeurs s'ils ont un vœu d'emploi du temps, c'est-à-dire s'ils ont par exemple une contrainte particulière, ceux qui veulent leur mercredi matin, voilà. Donc c'est le seul moment où je leur demande leur avis sur les emplois du temps, c'est-à-dire j'essaie de respecter un des vœux des enseignants.
Quand faites-vous les emplois du temps ?
Donc les emplois du temps sont commencés fin juin, je finis vers le 20 juillet. Et souvent, je suis obligée de les recommencer, les reprendre un petit peu avant la rentrée, puisqu'on reprend vers le 20 août. Et c'est là que je refinole les emplois du temps.
Pourquoi y a-t-il des emplois du temps provisoires ?
Donc il y a par exemple beaucoup de professeurs absents. Là, par exemple, au mois de novembre, on a dû avoir à peu près une vingtaine de professeurs absents. Donc là, je rechange les emplois du temps pour que vous n'ayez pas des heures de permanence, voilà, pour que les emplois du temps soient plus resserrés.
Pourquoi les emplois du temps de 6e et 5e sont moins chargés que celles de 4e et 3e ?
Donc ils sont moins chargés parce que les 6e et les 5e ont moins d'heures de cours que les 4e et les 3e. Puisqu'en 5e, il y a le latin, c'est la seule option. En 4e, il y a la deuxième langue vivante, plus section euro pour certains, donc ça fait des emplois du temps chargés, plus le latin. Et en 3e, on a en plus qui se rajoute la découverte professionnelle. Donc les élèves de 3e ont des emplois du temps, effectivement, qui peuvent être très chargés.
Suite à nos questions précédemment posées, nous avons posé des questions à un professeur.
Pensez-vous avoir un rôle important dans la mise en œuvre des emplois du temps ?
La mise en œuvre des emplois du temps sont préparés à l'avance par vœux en fin d'année scolaire, en mois de juin. Selon nos vœux, l'administration se charge de regarder si c'est possible.
Les emplois du temps vous conviennent-ils toujours ?
Du coup, à la rentrée, on découvre nos emplois du temps. Parfois il y a des pourquoi toi t'as eu le vendredi d'accepter de libre et pas moi, etc. Donc selon nos résultats, on refait des vœux et on regarde de nouveau si c'est possible. Moi j'ai pas eu de nouvelles modifications à faire, j'ai trouvé que c'était correct. Voilà.
La vie d'un élève venant tout juste d'arriver au collège nous est indispensable. C'est pour cela que nous avons posé des questions à un élève de 6e.
Comment trouvez-vous les emplois du temps de 6e par rapport à la primaire ?
Bah, ils sont plus chargés.
Trouvez-vous difficile le déplacement entre chaque cours ?
Non, prends l'ascenseur.
Au collège, nous avons donc une principale, Madame Dupuis, et son adjointe, Madame Darmon. Elles se répartissent le travail et donc les emplois du temps sont faits par une seule personne, Madame Darmon, la principale adjointe. Elle organise et fait les emplois du temps environ pendant 3 semaines au mois de juillet à l'aide d'un logiciel appelé EDT qui lui permet d'avoir une aide supplémentaire. Enfin, les heures de cours varient selon les options ajoutées comme en 4e où une deuxième langue se rajoute. Les professeurs ont en partie un rôle dans les emplois du temps, pour plusieurs raisons. Premièrement, chaque professeur fait des vœux pour demander les jours et les heures de cours où il souhaite travailler. Enfin, s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils peuvent faire une autre demande. Mais c'est toujours l'intérêt de la classe et des élèves qui passent avant. De la 6e à la 3e, les élèves n'ont pas les mêmes emplois du temps. Ils varient selon les langues ajoutées ou les options demandées.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez des emplois du temps ?
Finalement, l'avis que j'avais avant de faire ces interviews était différent car certains éléments n'avaient pas été pris en compte. Ainsi, pour faire des emplois du temps, il faut faire attention à certains critères généraux que les élèves ne connaissent pas forcément.
Mon avis rejoint celui de Marine. Je pensais que les emplois du temps étaient faits avec tous les avis des professeurs, mais finalement, c'est surtout les principales qui s'occupent de ça.
Moi, je pense, en tant qu'élève de 3e, que les emplois du temps sont très chargés par rapport à notre journée, alors qu'en 6e, les emplois du temps étaient très efficaces pour nous. Mais avec la réforme de l'année prochaine que Corentin et Valentin nous ont présentée, les emplois du temps et les cartables seront plus allégés. Et maintenant, nous allons retrouver Iman et Mélina qui vont aborder la chronique mode.
La mode vestimentaire est un phénomène qui touche énormément d'adolescents. En effet, la manière de se vêtir correspond au goût de chaque individu. Elle permet de se distinguer pour montrer d'où l'on vient et quelle est notre identité. Les ados sont souvent influencés par les stars, par la publicité et par des styles d'actualité. D'autres préfèrent adopter des looks plus excentriques, qui pourraient leur correspondre. Dans une première partie, nous montrerons comment la mode est un moyen de s'affirmer et de se distinguer. Dans une seconde partie, nous étudierons la mode adolescente et ses changements dans le temps.
D'abord, la mode est à la fois un moyen de s'affirmer et un signe de distinction sociale chez l'ado. En effet, le vêtement exprime notre identité. Cela permet de voir notre personnalité, si on est discret ou si on aime se faire remarquer, si on aime faire partie d'un groupe. On remarque que la mode vestimentaire dépend de notre origine sociale. Par exemple, le survêtement a beaucoup de succès parmi les jeunes de quartier de nos jours. Et chez les jeunes de la classe aisée, portent beaucoup de vêtements chics. La mode permet de mettre en valeur notre corps avec des tendances à chaque fois nouvelles, comme le jean slim. Il y a des vêtements adaptés à chaque morphologie, petit, grand, maigre et rond.
Puis, la mode adolescente a beaucoup changé dans le temps. La façon de s'habiller des jeunes, soi-disant à la mode, est en fait totalement dictée par la publicité. Les jeunes sont donc très attirés par la mode et les marques à cause de la publicité et des médias. Dans les publicités, les vendeurs de vêtements font tout pour que leurs produits correspondent aux désirs des jeunes. Mais de nos jours, les jeunes sont fascinés par les célébrités qui, elles-mêmes, portent des marques. Donc, pour être à la mode, c'est-à-dire pour avoir du swag, il faut porter des vêtements de marque. En effet, nous, les jeunes, on pense toujours que c'est beaucoup mieux d'avoir des vêtements de marque qui donnent un style plutôt qu'un vêtement sans marque trop classique.
Aujourd'hui, avec Internet, les jeunes veulent être encore plus à la mode, car de nombreuses youtubeuses ou de chaînes privées sur YouTube, Dailymotion, proposent des styles sur Internet, circulent beaucoup avec des photos de stars. Ça crée le buzz sur Internet, car parfois, il suffit qu'une star porte un vêtement pour qu'il soit en rupture de stock le lendemain. Mais certains préfèrent se différencier des autres en adoptant des styles plus excentriques, comme gothique, punk ou encore hip-hop. Cela s'explique par des différences de goût, l'envie d'appartenir à un groupe ou tout simplement se différencier. En conclusion, la mode chez les jeunes est une manière de s'affirmer en tant qu'individu et la publicité, les médias jouent un rôle très important dans la façon dont on s'habille et cela dicte les nouvelles tendances, mais il ne faut pas oublier que l'habit ne fait pas le moine.
Qu'est-ce que vous pensez de la mode ?
Pour moi, être à la mode, c'est très important.
Moi, je pense que c'est bien de suivre la mode, mais qu'il ne faut pas en être esclave. Ne pas se ruiner à cause de la mode, ou craquer pour tout, et se faire manipuler par les pubs.
Merci les filles de nous avoir présenté la chronique mode. Grâce à vous, les gens vont savoir ce qu'est la mode, et ils ne vont pas la suivre comme des moutons. On se retrouve tout de suite avec Iliès, où nous allons aborder la chronique loisirs sur les salles de sport.
Bring the action.
Bonjour Iliès.
Bonjour Moussa.
Une salle de sport est un lieu qui sert à pratiquer des activités sportives. Par exemple de la musculation, de l'aquagym, etc. Dans notre petite ville, il y a plusieurs salles de sport comme Keep Cool, Fun Tonic et même trois nouvelles salles de sport qui vont ouvrir début 2016. Alors on a voulu savoir pourquoi les salles de sport ont autant de succès et si elles sont accessibles à tous. Les salles de sport présentent de nombreux avantages. D'abord, elles sont très utiles et pratiques car on y trouve de tout selon la partie du corps qu'on veut travailler. Appareils de musculation, cours de fitness, aquagym. À la maison, on ne peut pas être aussi bien équipé car ça coûte cher et on n'a pas tous les moyens de s'acheter du matériel spécialisé mais aussi la place nécessaire. Puis, elles nous permettent d'améliorer notre condition physique, donc de préserver notre santé, on vit mieux, et notre forme. En plus, ça permet aussi de faire plus de connaissances et de tisser des liens avec d'autres personnes.
Enfin, la création des salles de sport apporte d'autres bénéfices, notamment économiques comme la création d'emplois, l'achat d'équipements, le paiement de la taxe d'habitation pour les locaux. Et surtout, il est possible de payer en plusieurs fois. Bien sûr, il y a des conditions requises pour accéder à une salle de sport, avoir 16 ans et l'autorisation des parents. Être en bonne santé, avoir un certificat médical, payer un abonnement en moyenne 30 euros par mois. En conclusion, la salle de sport est vraiment accessible à tous, mais évidemment, sous certaines conditions, elle permet de rester en forme tout en faisant connaissance.
Qu'est-ce que tu penses des salles de sport ?
Je suis content qu'il y ait des salles de sport à Dreux, mais je suis trop jeune pour m'y inscrire.
Les salles de sport sont vraiment efficaces pour se dépenser, se divertir et même pour maigrir. C'est la fin de ce premier magazine. On remercie Madame Enouski, Madame Bouchard, Madame Amar, Monsieur Sakir et Émilie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième magazine et merci de nous avoir écoutés.